Eh bien, que le Seigneur Jésus veuille nous parler par le Saint-Esprit pendant ce message. C'est sa parole qui vous est adressée, de sorte que vos cœurs soient remplis de foi, de la connaissance de notre Seigneur, de son plan parfait. C'est ce que nous allons essayer de transmettre à travers la parole qui va être lue. Et donc, demandons à Dieu de cette présence par le Saint-Esprit. Seigneur, Père, tu as parlé par les prophètes, tu as parlé par ton Fils bien-aimé, tu as parlé dans l'Écriture, tu parles à ton Église. Seigneur, parle-nous maintenant de toi, de tes plans parfaits, de ton œuvre parfaite et du salut que tu accordes à nos âmes, Seigneur, et la manière d'entrer par la foi dans ce salut. Bénis, Seigneur, par le Saint-Esprit, les paroles qui seront lues et proclamées. Amen. Quel beau sujet que de parler à l'Église de notre Père à tous, notre Père Abraham, notre Père, le Père des croyants. Alors, beaucoup de choses sont dites au sujet d'Abraham. Je vais vous lire quelques passages d'introduction. Déjà dans Jacques, au chapitre 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Bonne parole sur le fond de la foi d'Abraham, mais qui est donc appelé ici par Jacques, notre père Abraham. Père parce que Jacques était un juif, bien sûr, et que tous les juifs connaissaient Abraham comme leur père, selon la chair, mais père dans la foi aussi. Lorsque le riche, pris en exemple par Jésus avec Lazare, se trouve dans le séjour des morts, il voit Abraham et Lazare dans son sein et il s'écrie « Père Abraham » en voit Lazare. Il connaissait aussi lui-même Abraham comme étant son père. Dans l'Épître aux Romains, voyons un élargissement de cette compréhension d'Abraham en tant que père. À partir du chapitre 4, nous lisons versets 16 à 18. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père, à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Chapitre 9, versets 6 à 8. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom ». C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse « Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils ». Et puis, nous allons dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, versets 16 à 18. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Je continue jusqu'au verset 18. « Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. » Et enfin, les versets 26 à 29. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Amen. Si Abraham est devenu le père des croyants, c'est qu'il a été appelé. Abraham, lors de sa vocation partie, l'appel d'Abraham, c'est ce qui est le fondement de tout. Dieu a parlé à Abraham. Cela est rapporté dans le livre de la Genèse et cela est rappelé par Étienne au chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres. Je vous lis les versets 2 à 5. C'est la façon dont Étienne commence son discours de défense face au sacrificateur. Étienne répondit : Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit : Quitte ton pays et la famille et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoi qu'il n'ait point d'enfant. Et puis, bien sûr, nous allons dans la Genèse, au chapitre 11, déjà, verset 27, pour voir le contexte de la famille d'Abraham. Voici la postérité de Térakh. Térakh engendra Abraham, Nakhor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térakh, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nakhor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nakhor était Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Jiska. Sarai était stérile et elle n'avait point d'enfant. Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans et Térakh mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham : « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, à lire rapidement la Genèse, on a l'impression qu'Abraham a reçu son appel depuis Charan, après la mort de son père. Cependant, Étienne rappelle que Dieu est apparu à Abraham avant qu'il ne soit à Charan, lorsqu'il était encore à Ur. Et c'est bien à Ur que le père des croyants a reçu son appel. Le déplacement est attribué à son père, par préséance, je pense. Même si c'est son fils qui l'a convaincu de partir, il restait quand même, au vu de l'histoire, le chef de clan. Et donc la petite tribu a fait, il est vrai, une halte prolongée à Charan, assez pour que Lot et Abraham acquissent des serviteurs et augmentent leurs biens, comme il est dit au chapitre 12, verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme Lot, son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Et ils partirent pour aller au pays de Canaan. Alors Nakhor, le frère d'Abraham, n'a pas suivi la deuxième impulsion. Tout simplement parce que ce n'était pas son appel, mais celui du croyant à qui Dieu était apparu pour qu'il vive la foi dans l'absolu. Il appartenait à Abraham de donner le témoignage d'une foi unique. Cette foi, il l'a eue et il a dû aussi l'apprendre à travers ses faiblesses et ses manquements. Elle a travaillé son cœur au plus haut point pour que toutes les générations après lui sachent comment l'être humain reçoit son salut. Le commencement a dû être confirmé, éclairé par des étapes que le croyant ne pouvait pas connaître à l'avance. Pour notre salut, refaisons donc le parcours d'Abraham. Le préalable à l'engagement d'Abraham, c'est la parole de Dieu. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Et on voit à plusieurs reprises Dieu qui parle à Abraham dans son parcours et réellement, il semble lui apparaître comme un homme. Un homme qui lui parle directement. Il voit certainement une représentation de l'Éternel qui annonce la manière dont Dieu va parler dans ce monde à travers son Fils, puisque c'est bien dans une incarnation que le Fils de Dieu est venu nous parler de la part du Père. Donc le Dieu de gloire apparut à notre Père et lui dit, et dans la Genèse, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays ». Nous ne savons rien de la compréhension qu'Abraham avait du monde avant son appel. Certainement, il cherchait Dieu, il était descendant de Sem. Il y avait déjà un témoignage avant lui. Se lamentait-il en lui-même, comme le fera plus tard à Sodome son neveu Lot ? en voyant la civilisation qui se développait autour de lui? Marchait-il déjà avec Dieu comme Noé? C'est probable. Mais à lui, Dieu n'a pas dit « Je vais détruire cette civilisation » ou bien « Commence à prêcher pour changer le cœur des gens ». Non, il lui a dit « Quitte, va-t'en ». Dieu voulait préparer un monde nouveau, une vie nouvelle, vraiment nouvelle. Et pour cela, il ne fallait pas essayer de réparer l'ancienne. Il ne fallait pas essayer de changer la civilisation de ce temps-là. Il fallait seulement la quitter. Et pour de bon. Le chemin du salut commence par le constat d'échec de la vie de ce monde, par reconnaître l'incapacité de la société humaine à connaître Dieu. Dans tous les temps et sous toutes les latitudes, l'humanité est en échec à ce sujet. Quel est recours au Dieu, à la philosophie ou à la science ? Le résultat est le même. L'humanité et ses sociétés se développent et meurent sans avoir trouvé Dieu. Quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous, précise l'apôtre dans son discours aux Athéniens, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, et aussi au chapitre 14 à l'Istre, l'apôtre également fait remarquer aux païens que Dieu rend témoignage de ce qu'il est à toutes les générations et que les hommes sont appelés à le chercher en tâtonnant. Mais ils ne le trouvent pas vraiment. Mais ils restent en dehors de son salut. Alors Abraham est parti. Il est parti sans savoir où il allait, rappelle l'Épître aux Hébreux. Dans le pays que je te montrerai, Dieu n'a pas donné à Abraham l'indication précise au moment de son appel. Il a dit « Je te montrerai le pays ». Pour l'instant, sors de là où tu es. C'est-à-dire que Abraham est parti sans projet humain, sans vision humaine, sur la seule base de la promesse de Dieu. Il est allé à la rencontre de Dieu lui-même, parce que Dieu était venu à sa rencontre, avec cette demande de quitter, mais aussi avec une promesse. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà la promesse de Dieu à son serviteur. C'est cela la foi d'Abraham, d'abord d'Abraham, dont le nom a été changé ensuite. Il a cru à la promesse du Dieu de gloire, dit Étienne. Le Dieu de gloire est apparu. Il a cru à la promesse. Et cette promesse l'a tenue. Elle est restée le seul guide de ses engagements. Quand la foi d'Abraham a été confirmé par ses actes, comme Jacques le dit, la promesse a été complétée. Pour que la bénédiction que Dieu veut mettre dans nos vies, à tous, soit donnée à travers la descendance charnelle d'Abraham. Alors si nous passons les étapes, nous arrivons au moment ultime de la foi d'Abraham, l'épreuve du mont Morija, lorsque Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils. Avec la conclusion divine, chapitre 22, verset 16. L'ange de l'Éternel donc s'adressa une seconde fois à Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Si la première parole disait « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi », la seconde dit « Les nations de la terre seront bénies en ta postérité, en celui qui est sorti de toi. » Le sacrifice de l'enfant unique a conduit à travers le temps à la naissance de l'enfant unique, né par l'Esprit Saint, c'est-à-dire à Christ, né et sacrifié pour nos péchés en tant que descendant d'Abraham, postérité d'Abraham. L'apôtre Paul l'établit bien toujours dans Galates, chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Depuis ce temps et jusqu'à aujourd'hui, la naissance du Fils unique dans la descendance d'Abraham, depuis ce temps et jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu, la parole de la foi, celle par laquelle Dieu nous appelle à lui, dirige nos cœurs et nos pensées, non pas vers Abraham, mais vers Jésus-Christ, celui en qui, pour lequel Abraham a eu foi en Dieu. Aujourd'hui, celui qui est issu d'Abraham, mais plus encore celui qui est né du renoncement total du Père des croyants, ce qui était la foi dans son absolu, celle qui visait à la résurrection d'entre les morts, celui qui est issu d'Abraham vous appelle à croire à la vérité de sa mort et de sa résurrection avec la promesse de la vie éternelle. Si vous aussi vous croyez et que votre foi est confirmée par vos actes, vous serez sauvés. Dieu vous conduira et vous accueillera dans la cité éternelle dont il est l'architecte et le constructeur, dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 10. L'objet de la foi d'Abraham, là où Dieu l'a amené, c'est à ce que le Fils que Dieu voulait donner au monde puisse être sacrifié et ressuscité pour notre salut. J'avais une fois vu une conférence sur une vidéo, un homme athée qui se flattait d'examiner les choses de la foi et qui ne comprenait absolument pas que Abraham ait pu sacrifier son fils, faire mourir son fils. Et pourtant, c'est exactement là qu'Abraham a montré ce qu'est la foi qui dépasse la réalité de la mort. À partir de ce moment-là, tout était possible pour la vie nouvelle donnée par Dieu en Jésus-Christ. À partir de l'offrande du fils d'Abraham, fils unique, que Dieu lui avait donné avec la promesse que dans ce fils il y aurait la bénédiction pour les nations. Dieu ne pouvait pas manquer à sa promesse. Et Abraham l'a cru. Il a si bien cru que l'apôtre le dit dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Préfiguration de la résurrection de Jésus-Christ. Alors regardons d'abord ce qu'Abraham a quitté par la foi pour aboutir à ce point ultime et qu'il a non seulement quitté par la foi, mais qu'il a confirmé ensuite, par ses actes. Abraham a quitté déjà le confort d'une vie installée, une vie assez facile, qui offrait de multiples avantages. La Mésopotamie est connue comme étant le croissant fertile. C'était une vie facile relativement à l'époque, hein. C'était la civilisation qui était déjà développée et dans un contexte donc de fertilité, il y avait une abondance de biens dans cette région du monde. Et donc Abraham n'a pas hésité à quitter toutes ces facilités. Deuxièmement, et plus de façon plus grande, Abraham a quitté l'ambition et l'orgueil de la civilisation humaine. Il est clair que l'organisation et la puissance des grandes villes se mettaient en place, avec Babylone qui n'était pas loin, avec tout ce que cela entraîne de violence et de domination. Toute cette civilisation humaine est construite sur la force, sur la domination des hommes les uns sur les autres. Et tout cela, Abraham l'a laissé derrière lui. Abraham a quitté le monde religieux de l'époque, idolâtre, le rapport aux esprits, à l'âme des ancêtres, etc., les prêtres et les dieux, les astrologues et les devins, les magiciens. Tout cela, il a laissé derrière lui. Plus profondément, Abraham a laissé tout espoir que l'on peut mettre dans la vie de ce monde. C'est cela sa foi, sa force, ce qui fait qu'il n'a jamais pu désespérer ensuite, parce qu'il avait l'espérance, mais il n'avait pas ou plus l'espoir dans ce monde. Et Abraham, comme le dit Jacques, a confirmé par ses actes ultérieurs cette première démarche de foi. Tout était contenu dans le fait de quitter Ur et puis sa famille. Mais il a confirmé, et c'est là qu'il a été pleinement justifié. Parce que au pays de la promesse, Abraham n'a pas cherché davantage le bénéfice de la terre. Lorsqu'un problème s'est posé, une dispute entre les bergers d'Abraham et les serviteurs de Lot, au sujet d'avoir les meilleures terres pour les troupeaux, meilleur pâturage. Le père des croyants a laissé son neveu choisir la plaine fertile de Sodome et lui, il est reparti vers les plateaux et les montagnes plus difficiles de Canaan. Il a confirmé qu'il ne marchait pas pour le monde facile, développement facile. Au pays de Canaan, Abraham n'a pas cherché à produire sa propre civilisation. En tant que chef de tribu, nous voyons plus loin qu'il avait 300 et quelques serviteurs, commencé à former une vraie puissance. Mais il n'a pas construit de ville. Il n'a pas cherché à dominer les autres peuplades qui étaient alors dans le pays. Au lieu de cela, il est resté nomade, se contentant d'habiter sous la tente, tout le temps et jusqu'à la fin. Au pays de Canaan, Abraham n'a pas édifié de haut lieu avec une représentation du Dieu qui lui était apparu. Par contre, il a dressé des autels en différents points du territoire, en sacrifiant au Dieu invisible et en lui consacrant ainsi, par la foi, ce territoire. Par-dessus tout, après des tâtonnements et l'intervention en grâce de Dieu, par la naissance d'Isaac, il n'a pas hésité à aller au mont Morija. À ce moment, tout son espoir était dans la victoire de Dieu sur le péché et la mort de l'homme. C'est par la foi qu'il offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Tout cela, Abraham l'a fait de façon définitive et sans retour possible. Au point que lorsqu'il doit marier son fils, Isaac, il fait promettre à son serviteur, il lui demande d'aller chercher une épouse là où il sait qu'il y a une famille de croyants, même s'ils ne sont pas allés avec lui jusqu'au bout dans ce qu'il ne pouvait pas encore comprendre à ce moment-là, ou vivre à ce moment-là. Mais il savait que son frère avait reçu un héritage spirituel quand même. Et donc il envoie son serviteur vers la famille de son frère à Charan pour qu'il lui trouve une épouse. Et Le serviteur répond, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et qui m'a parlé et m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité », lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. La génération suivante, le fils de la promesse, ne devait pas retourner en arrière vers les civilisations et traditions de ce monde. Il devait vivre pleinement lui aussi la promesse pour la venue du Seigneur. Alors, vous êtes appelés, vous, en Jésus-Christ, à faire le même parcours qu'Abraham. Nous partons, nous, de l'endroit où a abouti la foi de notre Père, c'est-à-dire la croix de Jésus-Christ. C'est là notre point de départ, en fait. La prédication de Jésus-Christ, mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, est la raison et la puissance de notre foi en Dieu. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Épître aux Romains, chapitre 1, versets 16 et 17. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous partons de ce point-là maintenant, de cette apparition de Dieu en Jésus-Christ qui vient nous dire « Quitte ce monde pécheur et marche vers la vie éternelle. » Cette foi nous entraîne dans la rupture avec ce monde perdu, pécheur, ambitieux, idolâtre, c'est une véritable rupture intérieure pour saisir la vie éternelle. Nous renonçons au monde. Alors, il ne faut pas se tromper, la foi ne nous est pas donnée pour justifier nos ruptures, nos abandons, nos disputes, nos trahisons. Je quitte et je vais ailleurs, je quitte tout et je vais ailleurs. Pour faire quoi? Reproduire les mêmes schémas de pensée? Retomber dans les mêmes erreurs? Et bâtir humainement pour le monde présent? Ce n'est pas cela qui nous est demandé. Nous ne sommes pas justifiés de cette façon-là. Même Abraham est tombé dans des erreurs humaines. Mais son appel était authentique, sa foi était réelle. Dieu a pu corriger ses erreurs et même se glorifier dans ses erreurs. Mais il n'est fait mention d'aucune insatisfaction, dispute ou contestation du système en place de la part d'Abraham, le père des croyants. Il a simplement quitté sur la promesse de Dieu. Il a refusé la dispute avec son neveu Lot. Par contre, il est allé combattre une fois pour justement aller délivrer son neveu Lot qui avait été pris au piège des guerres de ce monde, en fait. La seule fois où il a armé ses serviteurs et où il est allé combattre les rois qui avait envahi le pays. La foi ne justifie donc pas nos ruptures, mais elle produit ses propres ruptures. Il y a une chose qui est à considérer dans notre parcours de foi. Il y a bien des choses encore à dire au sujet de la vie d'Abraham, et je voudrais terminer avec celle-ci. C'est l'étape de Charan. Lorsqu'il quitte Ur, Abraham remonte toute la plaine fertile du Tigre et de l'Euphrate. Il traverse, on peut dire, là où les civilisations d'alors, pour s'établir à Charan, à l'autre bout de la Mésopotamie. Il a fait un très long parcours, il suit l'appel de Dieu, mais il ne sort pas totalement du monde à ce moment-là, en fait. Et cette étape à Charan, je crois, nous instruit pour notre propre vie de foi. Elle nous indique que les disciples de Jésus ne font pas abstraction des réalités de la vie de ce monde. Le croyant le plus consacré reçoit au sein de ce monde une bonne éducation, se prépare à une profession, fonde probablement une famille. C'est tout cela qu'Abraham a fait en étant déjà un peu à Ur, mais en s'établissant à Charan avec le reste de la famille. Tout cela est normal, nécessaire, ce n'est pas contradictoire avec la foi. Par contre, la foi dépasse les circonstances de cette vie. Elle voit plus loin et rend témoignage finalement exclusivement à Jésus-Christ pour la connaissance de Dieu, le pardon des péchés et la vie éternelle. Voilà ce qui nous anime, même si nous avons à assumer une présence au sein de ce monde, nous avons ancré en nous la vérité de Dieu qui fait qu'on ne trouve pas la vie en dehors de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Voilà ce qu'est le témoignage d'Abraham avec bien d'autres aspects qui interviennent au long de son parcours. Amen.